Bonjour à tous. Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Figures de l'Histoire. Eh bien, je vais vous lire un acte de baptême. Alors, le voici. Jeanne Bécu, fille naturelle d'Anne Bécu, dite Cantigny, est née le 19 août 1743 et a été baptisée le même jour. Elle a eu pour parrain Joseph de Mange et pour marraine Jeanne Birabin, qui ont signé avec moi. Celui qui a signé, c'est le vicaire de Vaucouleurs. Où est Vaucouleurs? Ben, vous connaissez ça, hein, c'est à 20 km de Domrémy. Il dépend du diocèse de Toul, une région frontalière entre la France et la Lorraine. Alors je viens de vous lire, bien sûr, l'acte de baptême de celle qui va devenir la du Barry. La famille Bécu est installée dans la région de Vaucouleurs depuis au moins un siècle. Le grand-père semble avoir été un fameux luron. Jeune, il s'installe à Paris comme serrurier, puis rôtisseur. On ne voit pas bien le lien entre les deux, mais c'est ainsi. Il est très beau, si beau qu'il séduit une dame de qualité, Madame de Cantigny, comtesse de Montdidier, et il l'épouse. Devenu veuf, il reprend son métier de rôtisseur, car la dame, si elle avait un beau nom de noblesse, finalement n'avait pas beaucoup de sous et ne lui a rien légué. Il est alors au service de la comtesse de Ludres. Alors, entre parenthèses, celle-ci, elle a été la maîtresse de Louis XIV. Elle habite le château de Vaucouleurs. Alors, il est revenu au pays. C'est pas la comtesse qui l'épouse cette fois, mais une jeune fille à son service qui s'appelle Jeanne Husson. Et de cette union naissent 7 enfants. L'un devient prêtre, les autres domestiques. Charles, par exemple, il est valet de chambre du roi Stanislas Leszinski. Jean-Baptiste, il est chez le duc de Gramont. Et Nicolas chez la duchesse d'Antin. Ces deux derniers sont à Versailles. La dernière de ces 7 enfants, c'est Anne, la mère de Jeanne. Elle vit à Vaucouleurs où elle est couturière. Elle est très jolie, comme son père, intéressée et très habile. Nous le verrons plus tard. Elle loge dans une maison de belle apparence. La famille n'est pas misérable du tout. Elle va en journée pour des travaux de couture chez les dames de la ville. Et elle travaille aussi pour le couvent de religieux pénitents du tiers-ordre de Saint-François. Alors, nous ne sommes pas très certains du renseignement, mais il se peut, et en effet, vous verrez plus tard pourquoi, que frère Ange, de son vrai nom Jean-Jacques Gomard de Vaubernier, soit le père de Jeanne. En tout cas, il s'occupe d'elle. Puis Jeanne se fait appeler, à un certain moment d'ailleurs, Mademoiselle d'Ange, ou bien même Jeanne de Vaubernier. Bon, 4 ans après la naissance de Jeanne, Anne a un garçon, Claude. Alors sans doute est-il mort en bas âge parce qu'on n'en entendra plus parler. S'il avait vécu, Jeanne aurait assuré son avenir comme elle l'a fait pour les personnes de sa famille et puis de sa belle famille. Nous verrons ça un petit peu plus tard. Alors voilà que la maman, décide de partir à Paris. Une partie de sa famille s'y trouve. Elle reçoit alors la protection d'un financier qui s'appelle Roch-Claude Billard du Monceau. Il est payeur des rentes de l'hôtel de ville de Paris et munitionnaire aux armées. Ça explique les séjours à Vaucouleurs et comment il a rencontré Anne. Et c'est chez lui que s'installent à Paris Anne et sa fille. Alors, il faut sauver les apparences, bien sûr, donc elle y est en qualité de femme de chambre, parce que le financier, pour l'instant, il vit avec une des plus célèbres courtisanes de Paris. Jeanne a alors 5 ans. Elle est ravissante, blonde, aimable, de jolies manières. On le sait parce que le banquier a fait, le banquier, il avait un petit coup de crayon, pas vilain, hein. Il a fait plusieurs portraits de la petite. La courtisane, elle, s'est entichée de la petite fille, alors elle lui fait tailler des vêtements. Et cette courtisane qui fréquente les grands seigneurs, amis du financier, acquiert évidemment des mœurs extrêmement raffinées et elle les transmettra à la petite Jeanne. Chez elle, on rencontre non seulement des hommes d'argent, mais aussi des prélats un petit peu galants, hein, des littérateurs et des gens de la cour. En 1749, Anne, la maman, épouse Nicolas Rançon, qui travaille dans les bureaux du financier, c'est un mariage arrangé, hein, avec le titre de garde-magasin de Corse. C'est une promotion sociale pour elle. Elle approche de la quarantaine, si bien qu'elle reporte sur sa fille son souhait d'une haute envolée. Elle rêve pour sa fille d'un avenir très brillant. Alors, pour ça, il faut chercher des protections pour qu'elle ait une éducation qui la sorte de son milieu. À ce moment, reparaît dans la vie de Jeanne, frère Ange, sorti de son couvent. Celui dont on pense qu'il est le père de Jeanne, il est devenu prêtre des servants de la paroisse Saint-Eustache à Paris. Et les documents que nous possédons laissent supposer, finalement, qu'il n'a jamais été ordonné. Curieuse époque. Il reprend son nom de Gomard de Vaubernier et il fait admettre Jeanne au couvent des Dames de Saint-Aur. Elle a 8 ans. Alors là, c'est vraiment un changement d'existence parce qu'elle passe des boudoirs d'une courtisane, des fréquentations de la dite courtisane, aux rigueurs d'une institution religieuse réputée pour sa discipline. Le couvent, ça n'est pas du tout un lieu de mondanité. Au départ, il a été créé pour les filles repenties. Quand Jeanne y entre, c'est devenu un asile pour jeunes personnes qui, nées d'une famille honnête, courent le risque de se perdre. Alors, on peut dire finalement que c'est une maison d'éducation préventive. Une réussite pour Jeanne, ça ? Ben, on va voir, hein. Ce sont des religieuses de l'ordre de Saint-Augustin qui dirigent le couvent. Alors l'uniforme, ah ça va la changer de ce qu'elle portait. L'uniforme des élèves se compose d'un bandeau de toile autour du front, aucun cheveu ne doit dépasser, un long voile noir, une robe de serge blanche et des chaussures en peau jaune. Si bien qu'elle va passer 7 ans dans cette institution. La journée type. Écoutez bien, levée à 5h du matin, messe quotidienne, prière, punition si l'on bavarde ou si on rit. Eh bien, la jeune fille s'en accommode. Elle a un très bon caractère. Nous allons faire une première pause musicale. Thank you. Nous sommes sur Radio Grand Ciel. Je vous raconte la vie de Jeanne Bécu, qui pour l'instant n'est pas encore la du Barry, et les 7 ans qu'elle vient de passer dans une institution religieuse aux mœurs vraiment extrêmement sévères. À 15 ans, elle sort du couvent. Eh bien, ça n'a pas dû l'imprimer beaucoup, parce qu'on dit qu'elle est toujours rieuse, qu'elle est fraîche, qu'elle a un teint éclatant. Par conséquent, ses 7 ans au couvent n'ont pas éteint sa joie de vivre. Est-ce qu'elle en a gardé un bon souvenir ? Ça, on se le demande. Parce qu'au moment où elle est très riche, elle accorde beaucoup de bénéfices à beaucoup de gens. Elle est très généreuse, on le verra toute sa vie, hein. Eh bien, elle n'a pas eu un geste pour ce couvent-là. Bon, l'éducation qu'elle a reçue lui permet quand même d'avoir une écriture régulière, fine, une orthographe, ma foi, approximative, mais pas pire que celle de Madame de Pompadour, hein. Et puis, quand même, une certaine élégance de style. Elle est peu musicienne, mais elle a une jolie voix. Elle danse bien, elle est à l'aise partout, elle excelle en dessin. Mais quand je dis qu'elle excelle, vraiment, hein. Et elle va le pratiquer toute sa vie. Elle a le goût de l'ordre. Et une qualité importante, elle tient une comptabilité très soigneuse. Et lorsqu'elle sera riche, elle tiendra admirablement ses comptes. La gestion de ses biens, de ses propriétés, sera toujours parfaitement nette. Alors, elle a passé 7 ans chez les sœurs. Ben, quant à la religion, on lui dit qu'elle ne se soucie pas d'en accorder les principes avec ceux de sa conduite. Mais quand elle sera châtelaine de Louvciennes, hein, et ça c'est avéré par les papiers qu'on possède, hein, il n'y aura plus un seul pauvre aux environs. À porter à son crédit quand même. Hein. Lorsqu'elle a fait construire un hôtel particulier à Versailles, son premier soin, ça a été d'y faire consacrer une chapelle. Dans tous les domaines qu'elle va habiter, il y aura toujours, tous les jours, un service religieux. Alors, on ne nous dit pas qu'elle y assiste, hein, mais il y aura un chapelain. Et alors, chose à ajouter quand même à son crédit, pendant la Révolution, les prêtres devaient porter serment à la constitution civile du clergé, et il y a pas mal de prêtres qui ne voulaient pas. Ils étaient pourchassés pour ça, si bien qu'elle en a caché plusieurs. Donc voilà Jeanne sortie du couvent. Ah oui, mais que va-t-on faire d'elle ? Sa mère et son beau-père cherchent pour elle un emploi. Et reparaît à ce moment-là l'abbé Gomard de Vaubernier. Il est au service personnel de Madame de Lagarde. Il est l'aumônier du château, le château qui se trouve à La Courneuve, près de Paris. Alors il introduit Jeanne à La Courneuve. On ne sait pas trop si c'est en qualité de femme de chambre, de demoiselle de compagnie ou les deux à la fois. Bon, on ne sait pas. Madame de Lagarde reçoit des financiers importants, des abbés, des marquis à la mode, si bien que Jeanne est remarquée à la grande fierté de sa mère. Elle a 16 ans, Jeanne, à l'époque. Madame de Lagarde a 2 fils. 2 fils qui sont mariés. Mais ça ne les empêche pas de faire à Jeanne une cour extrêmement pressante. Madame de Lagarde s'en aperçoit et immédiatement, bien sûr, elle renvoie Jeanne. Donc, revoilà Jeanne chez maman et le beau-père. Et la question se repose, que faire d'elle ? Jeanne est placée alors chez un monsieur, le sieur Labille, qui est marchand de mode, rue Neuve des Petits Champs. Elle a 17 ans. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un marchand de mode à l'époque ? On dit encore un magasin de frivolité. On y vend tout ce qui concerne les ajustements des dames, toutes sortes de toiles, de mousselines, de broderies. Et curieusement, ces magasins sont très fréquentés par les messieurs. Ils viennent acheter là pour offrir à leurs dames. Mais ils viennent surtout pour voir de jolies vendeuses et leur proposer des rendez-vous. Alors Jeanne, elle est logée chez ce monsieur-là. Elle a une chambre juste au-dessus de la boutique. Et elle mène, on peut le dire, une vie fort libre. Elle va danser, elle va goûter sur l'herbe, elle va se promener avec les messieurs, souper en cabinet particulier, Je m'arrête là, mais vous devinez la suite. Jeanne est tombée amoureuse, non pas d'une personne, mais amoureuse du plaisir. Les jardins du palais royal sont tout proches. Chaque occasion d'une livraison, c'est un prétexte pour aller flâner sous les arcades. On s'y laisse aborder. Jeanne reste 3 ans chez Monsieur Labille. Et elle a un protecteur à ce moment-là. Il s'appelle Jean du Barry. Un personnage à la fois odieux et sympathique, cynique et pitoyable. Il est quand même de noblesse authentique. Hein. Son père, il est entré dans l'armée en 1702, sorti en 1731 avec la décoration de chevalier de Saint-Louis. Sa mère, qui s'appelle Martine de la Case, est d'excellente noblesse. Elle descend même d'une branche des Bourbons. Et lui, le Jean du Barry, ben, c'est plutôt un mauvais sujet. Il se cherche des protecteurs pour entrer dans la diplomatie. À défaut d'ambassade, il se voit bien octroyer des intérêts dans les vivres de la Corse, ce qui lui permettrait d'amasser une jolie fortune. C'est ce qu'il fait. Il protège des jeunes filles qu'il fournit à de riches amis. Il pense même à en mettre une dans le lit du roi. La liaison de Jeanne et de du Barry va durer 5 ans. Pendant que le beau-père de Jeanne est envoyé dans le Maine, la maman vient habiter avec Jeanne chez Monsieur du Barry. Alors, à quel titre? Eh bien, Jeanne est chargée de veiller sur la santé du fils de du Barry. Il a un fils qui s'appelle Adolphe. Il a 15 ans et la maman, elle est chargée de tenir la maison. La tâche de Jeanne est de se montrer hospitalière envers les familiers de la maison. De la rue Neuve-Saint-Eustache, on déménage rue de Jussienne dans un logement plus important, richement décoré. À ce moment-là, Jeanne se fait appeler comtesse du Barry. Alors, elle n'y a pas le droit, bien sûr, elle n'est pas mariée à Jean du Barry. La maison est fréquentée par des écrivains comme Crébillon, Dumouriez, le comte de Guibert, des amateurs d'art, parce que du Barry a une très belle galerie de peinture. Et on ne peut pas lui enlever ça, il est très généreux pour Jeanne. Elle est maintenant cliente chez le magasin Labille, là où elle était vendeuse. Ils ont une loge aux Italiens et aussi à l'Opéra, où Jeanne brille absolument par sa beauté. Nous allons faire une deuxième pause musicale. Thank you. je vous raconte la vie de Jeanne Bécu, qui vient de se faire appeler comtesse du Barry. Elle vit chez Jean du Barry, mais elle ne l'a pas épousé. À la maison, eh bien, ce sont des soupers fins qui se terminent tous de la même façon, mais ça gêne absolument pas Jeanne. Je vous ai dit précédemment, elle est amoureuse du plaisir. Eh bien, elle s'amuse. On connaît quelques-uns de ceux qui sont ses amants passagers, alors je vous les nomme parce que quand même, le duc de Richelieu, le duc de Duras, le prince de Ligne, le duc de Fitzjam. Si bien qu'à leur contact, Jeanne acquiert une culture, une aisance mondaine, du talent dans la conversation et du goût pour la toilette. À ça, il faut quand même ajouter qu'elle reste parfaitement naturelle, elle est d'humeur toujours égale. Et nous en arrivons, au changement de vie radical de Jeanne. Vous savez que Louis XV, il a eu pour maîtresse, et puis après ça, disons pour amie, Madame de Pompadour. Elle est morte. Le roi Louis XV, pour se distraire, il recourt à des jeunes filles qui habitent ce qu'on appelle le parc aux cerfs. Mais lui, il préfère les liaisons durables et officielles. Alors du Barry, le Jean du Barry, il pense mettre Jeanne dans le lit du roi. Mais il y en a un autre qui pense aussi la même chose. C'est le ministre Choiseul. Et lui, bien sûr, il pense pas du tout à Jeanne, hein, il pense à quelqu'un d'autre. Mais ça ne marche pas du tout, du tout. Alors, pour couper l'herbe sous le pied de du Barry, il se dit « je vais le priver de subsides, donc je vais lui supprimer sa charge, comme ça il n'aura plus d'argent ». Eh bien, du Barry, il ne se laisse pas ruiner sans réagir. Donc, il écrit des suppliques au roi, des suppliques à Choiseul, et il charge Jeanne d'aller les porter. Choiseul fait venir Jeanne plusieurs fois à Versailles, il la reçoit très mal, et pour s'en débarrasser, il lui conseille de s'adresser à Monsieur Foulon, qui est chargé du détail des vivres. Eh bien, il n'aurait pas dû, Choiseul, parce que Jeanne lui obéit. Pour ce faire, elle passe dans les appartements accompagnée de sa mère. Alors, une petite précision quand même, c'est qu'à l'époque, on peut se promener aisément à Versailles. On peut même aller dans les appartements du roi pourvu qu'on soit correctement vêtu. D'ailleurs, Louis XV, quand elle passe, il est en train de dîner en public. C'est pas qu'il la remarque particulièrement, lui, mais il y en a un qui l'a remarqué. Le duc de Richelieu, je vous rappelle qu'il a été son amant, donc il la connaît. Hein. Il se penche à l'oreille du roi et il lui murmure que la jolie femme blonde là-bas meurt d'envie d'être présentée à sa majesté et ne serait pas farouche. Le roi répond qu'en effet, elle est jolie et il demande à son fidèle Lebel d'arranger ça. Bon, ça peut sembler une passade. Donc Lebel en question, c'est son valet de chambre. Hein. Il est d'ailleurs gouverneur du Louvre, concierge du château de Versailles et il est surtout chargé de garnir le lit royal. Donc, un soir de printemps 1768, Jeanne est introduite dans les petits appartements. Habituellement, les jeunes filles ne font que passer. Hein. Mais le lendemain, Jeanne est encore là. Et le surlendemain, elle est encore là. Le roi est séduit. Lui qui a tendance à la mélancolie, il s'attache à cette nouvelle maîtresse. Pourquoi ? Elle est simple, elle est gaie, elle est gentille. Elle ne veut pas avoir une place très particulière. Elle est aussi ironique, mais ironique gentiment. Elle ne s'ennuie jamais, elle fait rire le roi, et ben voilà, le roi est amoureux. Alors elle, d'après les écrits qu'elle a laissés, elle l'est moins, mais elle reconnaîtra plus tard qu'elle a de la tendresse pour lui. Il a 58 ans, vous allez me dire 58 ans. Ah oui, mais à 58 ans, on est déjà vieux à ce moment-là. Hein. Bon, elle se plaît bien avec lui, il est aussi agréable que du Barry, mais beaucoup plus généreux. Alors Louis XV, il désire profiter pleinement de cette maîtresse. Ah oui, mais alors là, il y a un hic. Hein. L'étiquette est là. Si bien que lui, on sait bien le roi, il est continuellement obligé de vivre en représentation. Alors, elle ne peut pas être en représentation avec le roi. Donc quand elle quitte le roi, où est-ce qu'elle va ? Ben, elle retourne chez elle, c'est-à-dire chez Jean du Barry. Alors ça, c'est tout à fait insupportable pour le roi. Donc, pour qu'elle puisse être officiellement visible, il faut qu'elle soit présentée à la cour. Comme ça, il pourra la voir à toute heure du jour. Oui, mais ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas simple du tout. Parce que va dire la cour ? Et les antécédents de Madame du Barry ? Alors, Lebel enquête sur elle. Il y en a un qui se charge de la salir. C'est Choiseul, qui n'a pas réussi à mettre dans le lit du roi celle qu'il lui destinait. Alors, il dit carrément au roi quels sont les antécédents réels de Madame du Barry. Il y a une explication entre le roi et Jeanne, une explication tout à fait orageuse. Et à la fin, elle éclate de rire, elle déclare que tout ça, ça n'a pas d'importance, qu'elle va repartir à Paris. Alors le roi, il oublie sa fureur, et il déclare qu'en effet, ça n'a pas d'importance, à condition qu'elle ne retourne pas à Paris. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut trouver une solution. La situation devient une affaire d'État, parce que, bah oui, ça commence à s'ébruiter sérieusement, et puis Choiseul n'y est pas pour rien, hein. Les premiers pamphlets paraissent. Donc, pour que Jeanne ait le droit d'habiter le château, d'être vue en public, il faut qu'elle soit encore, je vous l'ai dit tout à l'heure, présentée à la cour. Bon, qu'est-ce qu'il faut pour être présentée à la cour ? Il faut que la dame ait des quartiers de noblesse. Ça ne se présente pas trop bien. Qu'elle soit dignement mariée. Ben, ça ne se porte pas bien non plus, elle n'est pas mariée. Que sa réputation, du moins officiellement, soit intacte. Ça fait beaucoup de choses. Hein. Bon, ben, Jeanne ne remplit aucune de ces conditions. Alors, elle, ça ne la gêne pas du tout. Hein. Le roi, lui, il craint de la perdre. Jean du Barry, lui, il se dit, chouette, je vais peut-être pouvoir avoir un ministère. Sa mère, Anne, ça la rajeunit de 20 ans. Le duc de Richelieu, il est enchanté qu'elle soit dans le lit du roi. Pourquoi ? Parce que ça ennuie Choiseul. La double question de la noblesse et puis du nom, bon, peut-être que ça peut s'arranger. Alors, que va-t-on faire ? Eh bien, il y a pas mal de gentilshommes, finalement, qui sont tout à fait prêts à rendre service. Je précise, pas gratuitement, bien sûr. Mais ça ne fait pas l'affaire de Jean du Barry. Lui, il est noble, Jean du Barry. Mais il est marié ! Ah, bonne idée ! Il a deux frères célibataires. L'aîné Guillaume est appelé à Paris. On lui dit à Guillaume, voilà, tu te maries tel jour. Il ne voit même pas sa fiancée. D'ailleurs, elle est très prise par ailleurs. La mère de Guillaume est tenue de donner son accord. Ben alors, elle fait un petit peu de manière quand même, parce que marier son deuxième fils à la maîtresse de l'aîné, afin que sa bru soit libre de coucher avec le roi, quand même, ça fait beaucoup. Mais que faire contre l'énergie de son fils Jean ? La bonne volonté de Guillaume, lui, veut bien tout ça. Hein ? L'autorité du roi et des perspectives quand même monnayables pour la maman. Alors la dame finit par accepter. Les choses s'arrangent du côté de la belle famille. Corriger un acte de naissance, ça, c'est plus difficile. Tout Versailles attend de connaître les origines de la nouvelle favorite. Nous allons faire une autre pause musicale. Thank you. Nous sommes sur Radio Grand Ciel. Je vous raconte la vie de ce qui est pour l'instant la comtesse du Barry, mais elle n'est pas encore mariée. Le roi veut absolument qu'elle soit présentée à la cour. Il faut donc fournir un mari. Ça y est, c'est fait. Ça sera le frère de Jean du Barry. Et puis, il faut fournir aussi une attestation de quartier de noblesse. Choiseul, lui, il a bien mené sa campagne, si bien qu'on s'attend au pire. Seulement, les familiers de Jeanne se soutiennent. Et voilà, écoutez bien, le papier qui arrive de vos couleurs, qui ne correspond pas à ce que je vous ai lu au début de l'émission de son acte de baptême. Et voilà ce qui arrive. Jeanne, fille de Jean-Jacques Gomard de Vaubernier. Ah, voilà donc lui qui reparaît, et d'Anne Bécu de Cantigny, née le 19 août 1746, a été baptisée le même jour. Elle a eu pour parrain, Joseph de Mange. Sur l'acte de baptême, c'était de Mange en un seul mot. Hein. Et pour marraine, Jeanne de Birabin. On lui a rajouté aussi un de. Le père étant mort, Anne a épousé Nicolas, non pas Rançon, mais deux Rançons. Alors vous parlez, quelle belle famille, hein ? Quelle honorabilité ! Si on n'avait pas retrouvé les véritables documents au siècle suivant, on aurait pu croire à la véracité de cela. Mais malheureusement, un siècle plus tard, on retrouvera le véritable acte de baptême. Alors maintenant, il faut vite inventer des armes. Ben, c'est pas le tout d'être noble. Encore faut-il en avoir. C'est fait, on lui en crée. Jeanne est rajeunie de 3 ans. On peut dire que la comédie de ce mariage est une réussite. Alors que croire de l'attitude de Jeanne ? Ben quand même, elle n'est plus une enfant à l'époque. Hein. Elle se sait la pièce principale de cette machination. Elle n'est pas inconsciente au point de laisser agir ainsi si elle ne se sentait pas soutenue par l'autorité du roi. On suppose donc que Louis XV est parfaitement au courant de tous les trucages. Faire de lui le premier dupe aurait été trop gros. Hein. Donc, couvert par le bon plaisir du roi, tout n'est plus qu'une aimable comédie. Thank you.